Chers frères et sœurs en Christ, bien le bonjour à vous et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur. Merci pour votre invitation et votre accueil. Que le Seigneur soit loué encore cet après-midi par les chants, les louanges que nous avons pu faire monter vers le ciel auprès de lui et par ces partages de la parole que nous allons avoir pendant ces quelques minutes qui suivent. Aujourd'hui, je vous invite à poursuivre et à terminer, même si une prédication n'est jamais terminée en fait, ce n'est qu'une ouverture sur une réflexion et surtout sur une application et une croissance. Alors, souvenez-vous, les deux derniers dimanches, nous avons vu la tentation de Jésus dans le désert et puis nous avons enchaîné sur quelques personnes dans la Bible qui se sont compromises, d'autres qui ont refusé le compromis. Et j'aimerais juste introduire par Galates chapitre 5, verset 16, qui dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et je vois qu'en plus, ce verset est en réflexion pour la semaine prochaine. Merci Seigneur, vous voyez que ça continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, nous allons voir aujourd'hui, effectivement, notre attitude par rapport à cette compromission, nous propre aujourd'hui, en cette date de mai 2013, et puis voir quels sont... Le Seigneur ne nous laisse pas dans la nature, ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, mais, merci Seigneur, il nous donne des armes pour lutter, des armes pour combattre, des armes pour résister. Dans nos vies tous les jours, il y a des sujets sensibles où nous subissons plus ou moins le phénomène de la compromission. Et ce phénomène de compromission touche tout ce qui nous environne et voire même nous-mêmes. Ça peut aller de notre tenue vestimentaire à notre alimentation. Souvenons-nous qu'il faut manger équilibré, mais c'est une réalité. Dois-je m'identifier à autre chose ou à quelqu'un d'autre qu'à Christ? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment mon exemple, mon image, ma référence? Où est mon appartenance? Recentrons déjà, quelle est mon appartenance? Souvenez-vous, nous avons parlé de cette façon de ne pas, cet état de ne pas suivre deux maîtres. Nous ne pouvons pas suivre deux maîtres. Donc nous n'avons pas à nous conformer à ce siècle présent. Les gens aiment la mode. Nous aussi, nous pouvons aimer la mode. Les jeunes aiment le piercing, les tatouages. On n'en a jamais vu autant qu'aujourd'hui, et je dirais ça ne fait que commencer. Pourquoi? Quelle est ma recherche? Quelle est mon identité? Quelle est mon identification? Le regard des autres, les regards que les autres portent sur moi, ne doivent pas être attirés par ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, de me percer, de me tatouer, mais par la vision de Jésus dans ma vie, et non d'un signe extérieur quelconque. Voilà, j'appartiens à Christ, je montre que j'appartiens à Christ. Il est vrai que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Une vie saine et sainte se cultive quotidiennement, sauf bien sûr si nous voulons mener une vie chrétienne dite médiocre, parce que notre préoccupation n'est pas tournée vers le ciel, n'est pas tournée vers Dieu. Nous avons, en tant que chrétiens, à prier régulièrement, à lire la parole de Dieu, à l'étudier, à communier efficacement. Ça, ce sont les bases de la sainteté. S'éloigner des sources de la tentation que nous connaissons. Et nous les connaissons pour notre propre vie. Les mauvais films, les mauvaises lectures, les mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations. C'est un travail quotidien afin d'éviter d'entrer dans la compromission et de céder à cette compromission, de céder à la tentation et de pécher. Avec un frère, la semaine dernière, nous discutons de situations bien délicates et très délicates, notamment dans le domaine de la santé. Il y a des situations compromettantes où il y a une décision à faire, il y a un choix à faire. Choix dans notre vie personnelle, dans notre travail, dans notre famille. L'essentiel de ne pas oublier, c'est de prier Dieu. Seigneur, que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Parfois, il est nécessaire de fuir. Hein ? Dans la Bible, nous avons ce verset qui dit « Fuis les passions de la jeunesse ! » Fuir, il vaut mieux fuir. Ce n'est pas une lâcheté de fuir la compromission. C'est une façon d'aller se réfugier vers Dieu, de ne pas s'approcher de la flamme jusqu'à ce que nous nous brûlions, se détourner du mal. Mais détourne-nous du mal. Tout ça, ce sont des réalités, ce ne sont pas juste des phrases écrites pour remplir 1000 et quelques pages d'un livre. Parfois, il est nécessaire, et ça peut se présenter, d'être obligé de changer de travail, de changer d'amis, parce que nous voyons que c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est vrai, on peut se poser la question, mais que ferait Jésus à ma place ? C'est une bonne question. Que ferait Jésus à ma place ? Et demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Certes, il y a des exemples de situations délicates. On ne peut pas tous les citer ni les lancer comme cela, mais il y a une chose est certaine, c'est que nous devons prier Dieu dans chaque situation. Seigneur, que dois-je faire ? Que me montres-tu de faire ? Mais il y a une phrase, il y a en tout cas une image qui m'est venue en écrivant cela. Je me suis dit, il y a une chose que je ne dois jamais oublier. Parce que parfois je suis mis en relation avec quelqu'un qui me met dans une situation compromettante. Et là, j'ai eu cette vision de Jésus avec la femme adultère. Certes, elle était en situation de péché, et en plus, elle était prise en flagrant délit, donc elle ne pouvait pas nier, c'était évident. Donc la loi disait que lapider. Donc tout le monde vient, hein, vous connaissez cette scène, la porte à Jésus, devant Jésus. Et que dit Jésus ? Bon, ben oui, certes, c'est vrai, vous dites, elle a péché, lapidez-la. Mais qu'a répondu Jésus ? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ah ! Et puis il lui dit, il ne lui dit pas « hors de moi Satan » puisqu'elle elle est pécheresse. Mais Jésus lui dit « va et ne pêche plus ». Je pense que cette image, il faut l'intégrer quand nous nous trouvons dans des situations compromettantes par une tierce personne. Ne pas oublier de ne pas juger et d'être rempli d'amour pour notre prochain. Il me semble important d'avoir cette image de Jésus qui aime le pécheur, qui n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur. Jusqu'à aujourd'hui, tu étais pécheur, mais maintenant, va et ne pêche plus. Jésus a remporté la victoire sur le diable à la croix. Jean 16, verset 11, « En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. » Donc nous savons que Satan, qui use encore aujourd'hui de tous ses traits pour nous détourner de Dieu, son sort est déjà jeté. Il est déjà vaincu. Nous avons affaire à quelqu'un qui est déjà vaincu. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11, « Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait, « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. » Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et Dieu nous donne cette possibilité de vaincre aussi. Nous ne partons pas perdants. Il y a quelques années, j'ai lu un livre autobiographique d'un artiste américain, un chanteur qui s'appelait Keith Green. Je ne sais pas si certains ont entendu parler. Et c'était un grand aventurier spirituel, plein d'audace. C'était un assoiffé d'idéal dans un monde de compromission. D'ailleurs, son épouse a écrit un livre, Mélodie, qui s'appelle « Sans compromis ». Il a lutté contre la démagogie et les compromissions du christianisme et contre les traditions poussiéreuses, celles qui ne servent à rien, celles qui ne montrent pas Dieu, celles qui nous maintiennent les yeux vers la terre au lieu de lever les yeux au ciel. Combien de fois j'ai pu voir des responsables chrétiens accepter la compromission avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Keith Green a écrit dans son livre intime une petite phrase qui dit « Père, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, de ta sagesse qui dépasse largement mon âge et mes capacités. » En quelques années, il a atteint une très grande maturité spirituelle et le Seigneur l'a rappelé à l'âge de 28 ans. La tentation, c'est une réalité, la compromission est une réalité dans notre vie de chrétien. Nous qui affrontons le monde, qui affrontons Satan, qui affrontons notre propre chair. Mais ce n'est pas parce que c'est une réalité que c'est une fatalité. Ce n'est pas parce que cela existe que cela va s'accomplir dans ma vie. Parce que j'ai le droit, j'ai même le devoir de refuser. Le Seigneur nous a appelés hors des ténèbres pour vivre dans la lumière. Hors des ténèbres pour vivre dans la lumière. Parce que si ça, ce n'est pas une réalité, quel est l'intérêt d'être chrétien, si je puis dire? S'il n'y a pas de différence avec ceux qui m'entourent. Et nous en arrivons aux armes spirituelles pour lutter. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9, « Or vous, or nous ne sommes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, « Et c'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'approchent de Dieu, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. » La différence entre Dieu et toutes les autres divinités, on va dire, toutes les autres croyances, c'est que Dieu est vivant. Nous n'adorons pas un esprit mort. Nous n'adorons pas une statue. Mais nous avons un vivant avec nous, qui nous voit, qui nous entend, qui nous écoute, qui nous guide, qui nous aime et qui ne veut pas nous voir tomber. Alors peut-être, on peut se dire, ah oui, mais je préfère tomber, c'est plus facile. C'est plus facile de quoi ? Plus facile aux yeux des autres ? Plus facile aux yeux de Dieu ? Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, de tomber. Non, le Seigneur nous demande de grandir, d'être toujours debout contre le vent, contre la tempête, contre les difficultés. Et ce n'est pas à vous que je vais dire que des difficultés, il n'y en a pas, même pour les chrétiens. Au contraire, je peux vous dire que les difficultés que rencontrent les chrétiens sont parfois plus fortes parce qu'il y a plus de lutte que pour ceux de l'extérieur. Mais nous avons un Dieu vivant pour nous guider, pour nous porter. Donc nous avons lu tout à l'heure en introduction Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. On peut remettre le début, s'il te plaît. Alors je vais le relire avec vous, et puis on va projeter la suite, et j'aimerais bien qu'on le lise à haute voix, la suite de ces versets ensemble, hein, je vous le dirai. Donc au reste, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah, vous voyez, hein, le Seigneur nous donne des armes. Qui dit armes, dit combat, hein, dit lutte. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà, c'est clair. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi le pluriel ? Parce que Satan a plusieurs facettes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Donc comprenez bien. Il faut d'abord avoir pris les armes de Dieu pour pouvoir résister. C'est pas quand la tentation me saute dessus, panique à bord, Seigneur, s'il te plaît, que dois-je faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, si je suis équipé, déjà, c'est beaucoup plus difficile d'être atteint. Il faut déjà que je sois équipé pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Donc je dois résister et je dois tenir ferme. Non, je refuse. Je refuse cette compromission. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc avec les armes de Dieu, je suis capable de tout surmonter. Tout ce qui se présentera à moi, je peux les défaire, je peux les détruire, je peux les couper, parce que j'ai les armes de Dieu avec moi. Et je vous invite, s'il vous plaît, comme une confession, comme une volonté de saisir les armes du Seigneur, de lire ensemble les versets qui suivent. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Là, nous voilà équipés. On a pris la parole de Dieu. On a l'armure complète. Oui, on a l'armure d'un soldat. Nous sommes les soldats de Christ. Le peuple du Seigneur, c'est un peuple armé. Le Seigneur ne nous envoie pas dans la bataille nu, sans rien. Il nous demande d'avoir un bouclier, enfin une armure. Tout ce qui vient en face se heurte contre l'armure. Et par le bouclier que je peux déplacer quand l'ennemi m'attaque sur les côtés. Il faut voir un peu l'image que cela représente. Je peux résister de front, mais je peux me protéger sur les côtés, dessus. Il y avait une particularité avec une armure, vous savez laquelle ? Il n'y avait rien dans le dos. Vous savez pourquoi ? Interdiction de tourner le dos à l'ennemi. Et puis le casque, comme ça au moins, ma tête est à l'abri, mes pensées sont à l'abri des mauvaises pensées qui peuvent m'envahir. Et puis la lance, parce que c'est bien beau de résister, mais aussi avec la lance, je peux piquer l'adversaire, comme Jésus a fait avec le diable. Tiens, voilà la parole de Dieu, voilà ce qu'elle dit la parole de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur. Maintenant, qu'as-tu à dire ? Rien. Rien parce que je t'ai confondu. Je t'ai confondu. J'ai confondu la situation qui se présente à moi avec les armes que le Seigneur m'a données. Et là, j'ai la victoire spirituelle. J'ai la victoire spirituelle. Mais j'ai oublié aussi, hein, il ne faut pas oublier les chaussures pour ne pas se blesser les pieds. Parce que quand j'avance, entre guillemets, en territoire ennemi, je ne peux pas me blesser les pieds. Je n'ai pas de faiblesse au niveau des pieds. Si je n'ai pas de faiblesse au niveau des pieds, je ne suis pas tenté de mettre les genoux à terre. Alors tout ça, c'est très imagé, mais c'est la réalité du chrétien. Le Seigneur nous dit que nous sommes protégés de la tête aux pieds avec cela. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle, hein, parce que le Seigneur nous dit, ben, pour pouvoir avancer, mais pour pouvoir avancer dans ce monde, pour pouvoir annoncer la parole, il faut avoir de bonnes chaussures, il faut avoir le zèle que donne l'évangile, l'envie de transmettre cet évangile. Tout ce que vous faites, faites-le avec zèle. dit le Seigneur. Faites-le avec zèle. Ça veut dire faites-le avec empressement, faites-le avec envie, avec plaisir. Quand on fait un repas, quand on prépare un repas, si on n'a pas envie de le faire, qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Un bon repas ? Voici un bon repas que j'ai préparé avec amour. Non, on a envie de partager une bonne chose. Donc on le fait avec cœur. C'est comme si mon cœur souriait. Alors quand je partage la parole de Dieu, que je le fasse avec zèle. Quand je vis la parole de Dieu, que je le fasse avec zèle. Puis le bouclier de la foi, parce que si je n'ai pas la foi, comment lutter si je n'ai pas la foi ? Et au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous avons à prier, bien sûr, pour remercier Dieu, mais nous avons aussi à supplier Dieu, à intercéder. La prière n'est pas non plus quelque chose que l'on prend à la légère. Intercéder, ça veut dire lutter dans la prière. Ce n'est pas uniquement notre prière qui est aux cieux, amen, une fois, deux fois, trois fois, on n'en parle plus. Bon, qu'est-ce qui se passe après ? C'est pas ça l'intercession, hein ? Intercéder, lutter. Quand nous voyons les récits de Jésus, on nous dit que Jésus a prié toute la nuit. Jésus a prié toute une nuit. Parce qu'il a intercédé. Il a pris du temps. Il a passé du temps. La victoire spirituelle exige une parfaite obéissance à la vérité. Il ne suffit pas de connaître, il faut aussi pratiquer. Si on veut qu'un soldat soit efficace, il faut qu'il s'entraîne. Sinon, il rouille. Alors moi, j'ai pas envie d'être un chrétien envahi par la rouille, puis par les ronces. Puis je suis tellement resté au même endroit que les herbes ont commencé à m'envahir. Puis après, pour bouger, c'est beaucoup plus difficile. De toute façon, un chrétien qui n'avance pas, c'est un chrétien qui recule. Parce que le Seigneur, pourquoi on dit ça ? Parce que le Seigneur veut que nous avancions, veut que nous progressions, veut que nous nous approchions davantage de lui, que nous apprenions à le connaître et à le faire connaître. L'intérêt de connaître, c'est que je peux transmettre. Si je ne connais pas, qu'est-ce que je peux transmettre ? Et vous savez, il suffit de connaître une petite chose pour pouvoir transmettre une petite chose. Mais si je ne connais rien, qu'est-ce que je peux transmettre ? Il ne suffit pas de dire « Ah, Seigneur, Seigneur !» pour être sauvé. Le refus du compromis et la recherche de la sanctification sont la preuve de notre désir d'avoir une vie conforme à la volonté de notre Dieu et le seul moyen de grandir spirituellement. Et la sanctification, c'est comme une pépite d'or cachée, hein. Il faut aller la chercher, mais quand on l'a trouvée, quelle merveille! Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Sur cette réflexion sur la compromission et surtout sur le refus, vous avez compris, hein, de la compromission, nous avons les armes pour y répondre, pour la refuser, pour grandir. Peut-être et sûrement, il nous faudra tomber une fois, deux fois, trois fois. Mais ce que nous avons à apprendre, c'est que le Seigneur est à nos côtés, qu'il ne veut pas que nous tombions, et il est prêt à nous relever si nous lui demandons. Et le refus de la compromission, ce n'est surtout pas et sûrement pas une preuve de faiblesse. À vue humaine, cela peut paraître comme de la faiblesse, mais aux yeux de Dieu, c'est une victoire. C'est une victoire. Comme on dit chez nous, ne pas ménager la chèvre et le chou. Et le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Pas peut-être, ok, on va s'en accommoder. On ne s'accommode pas ni d'une demi-vérité, ni d'un demi-mensonge. Parce que le Seigneur veut que nous soyons ses imitateurs. Il veut que nous soyons saints. Afin que nous ayons la meilleure place, nous ayons une vie épanouie en lui. Et surtout, une vie céleste remplie. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.